Sud Radio, le débat. Étienne Chouard, Raphaël Enthoven, 19h-20h, Éric Morillot.
Bonsoir à tous, il est un peu plus de 19h sur Sud Radio, nous sommes en direct jusqu'à 20h, également live vidéo sur Facebook et YouTube. Alors ce vendredi 25 janvier, alors que le grand débat national est désormais lancé, au lendemain d'une première rencontre entre Emmanuel Macron et les Gilets jaunes, ce soir aussi le débat est sur notre antenne, un débat très attendu, annoncé depuis plusieurs semaines sur les réseaux sociaux, sur le thème des Gilets jaunes. Alors un débat entre deux personnalités emblématiques que je vous présente tout d'abord. À ma gauche, Étienne Chouard, vous êtes professeur d'économie, blogueur et militant en politique, devenu célèbre en 2005 en faisant campagne pour le non à l'occasion du référendum sur la Constitution européenne. Vous êtes auteur du blog du Plan C. Vous êtes devenu la coqueluche des Gilets jaunes grâce notamment à vos travaux sur la réforme des institutions et notamment sur le fameux RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Bonjour Étienne Chouard.
Bonjour.
Et en face de vous, professeur de philosophie, essayiste, présentateur de l'émission Philosophie sur Arte, il est intellectuel, volontiers provocateur, polémiste structuré. Il est célèbre pour son franc-parler et ne craint pas la polémique avec diverses personnalités. Raphaël Enthoven, bonsoir.
Bonsoir Éric.
Alors tous deux, vous publiez vos livres respectifs, c'est un hasard, fin janvier. Le 30 paraîtra donc Nouvelle Morale Provisoire donc de Raphaël Enthoven, suite de ces Morales Provisoires aux éditions de l'Observatoire, dans lesquelles le professeur de philo éclaire à nouveau les faits d'actualité pour que chacun puisse prendre du recul sur ce qui est dit et commenté dans les médias. Et puis le 31 sera disponible notre cause commune, instituer nous-mêmes la puissance politique qui nous manque. C'est le titre du dernier ouvrage d'Étienne Chouard aux éditions Max Milo, dans lequel le professeur d'économie, cette fois, développe ses idées principales sur la Constitution, les élections et le capitalisme.
Sud Radio, le débat. Étienne Chouard, Raphaël Enthoven, 19h-20h. Éric Morillot.
Voilà pour les rapides présentations. Bonsoir, donc je l'aurais dit à vous deux. Soyez les bienvenus. J'espère que ce débat va être courtois. Merci donc d'avoir accepté cette invitation. Je l'espère. Alors, si vous le voulez bien, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour, je l'espère, donc un débat, je le redis encore, des plus courtois, je vais vous demander à chacun un propos liminaire de nous dire en 3-4 minutes pourquoi vous avez accepté ce débat, ce que vous en attendez. Et on va commencer par vous, Raphaël Enthoven, puisque tout est parti d'un tweet dans lequel vous écriviez notamment, je vous cite, Jean-Luc Mélenchon soutient Salvini, François Ruffin félicite Étienne Chouard, suivi du commentaire, savent-ils combien le rouge-brun tâche? Alors, justement, vous le dénonciez, est-ce que ça n'est pas une forme de procès d'intention?
C'est exactement un procès d'intention. Je me suis laissé emporter par mon petit plaisir dans la vie qui est de critiquer les insoumis. Voilà, ça m'apprendra. Non, c'est un procès d'intention. C'est même la raison pour laquelle on est là. Je veux dire, si j'avais pas eu une mauvaise manière envers vous et si vous n'aviez pas eu la bonne idée, je dois dire, de répondre aimablement à ce mauvais procédé, on ne serait pas en train de discuter. Donc si on est là en train de discuter, c'est de ma faute. Grâce à vous. Voilà. Alors, l'erreur, c'est le procès d'intention que je vous ai fait. Le procès, c'était celui d'être un rouge-brun, comme on dit. Hein. On aura le temps d'en reparler, mais c'est-à-dire, en gros, pour nos auditeurs, quelqu'un dont les références empruntent autant à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite.
Du communisme.
Et oui, et alors, si j'ai commis l'erreur de décréter vos opinions sans les avoir mises à l'épreuve, Étienne, c'est parce que je vous ai quand même un peu lu et écouté. Et c'est vrai que moi, qu'est-ce que j'avais sous la main? J'avais des louanges d'Alain Soral, des louanges de Eustace Mullins, dont on parlera peut-être. À gauche, j'avais une défense de Thierry Messant, une reprise des arguments de Sartre lui-même contre les élections et des thèses de Frédéric Lordon, je ne sais pas si c'est lui qui a repris les vôtres ou inversement, sur l'anticomplotisme. Alors, ça ne prouve rien et honnêtement, je suis venu ici pour changer d'avis. Mais ce qui est intéressant, et c'est ça que je veux dire, c'est que toute proportion gardée, bien sûr, je me suis un peu conduit avec vous comme les gilets jaunes se conduisent avec le pouvoir. C'est-à-dire que j'ai décrété vos intentions sur la seule base de ce que je croyais savoir au lieu de confronter mon jugement avec la réalité. Et j'irai plus loin, je me suis conduit un peu comme vous-même, vous conduisez, je crois, à l'égard du pouvoir. Quand vous parlez de voleurs du pouvoir à propos de gens élus, de gredins, de criminels, tout ça sont des citations, hein, arrogants, obscènes, insultants, humiliants. Celui qui tente juste, comme l'ensemble de ses prédécesseurs, de réformer la Sécu, je crois que vous faites aussi un procès d'intention et, pour reprendre la formule, vous en prenez au messager parce que vous redoutez le message. Et alors, la deuxième raison, très rapidement, pour laquelle moi je suis content d'être ici, c'est que, depuis leur commencement, les Gilets jaunes sont hantés par des récupérateurs. Des récupérateurs qui sont vraiment pas très bons d'ailleurs en plus. Il paraît que la récupération est un geste écologique, mais là c'est raté. Nicolas Dupont-Aignan par exemple, qui ment avec l'aplomb d'un enfant mal élevé. Jean-Luc Mélenchon qui s'enfonce dans la démagogie avec la volupté d'un premier communiant qui découvre le sexe. Marine Le Pen qui n'a rien à faire pour tirer les marrons du feu. Il y a aussi les gens qui espèrent relancer ou lancer enfin leur carrière comme Francis Lalanne, ou ceux qui sincèrement tentent de comprendre, comme ça a été le cas d'Alexandre Jardin. Puis il y a les Gilets jaunes, Jacqueline Mourot, Éric Drouet, Maxime Nicole, Ingrid Levavasseur, etc. Et aucun d'entre eux ne fait l'unanimité. Or, le seul à n'être jamais contesté par les Gilets jaunes, le seul dont je n'ai lu que des éloges de leur part, c'est vous, Étienne Chouard. Vous êtes unanimement, à ma connaissance, j'ai beaucoup regardé, j'ai pas tout vu bien sûr, c'est impossible, vous êtes unanimement, à mon sens en tout cas, apprécié par les Gilets jaunes. Ils vous respectent, ils vous écoutent, et en somme, vous êtes, ne vous déplaise, l'unique représentant légitime des gens qui, dans leur démarche, contestent l'idée de représentation. C'est-à-dire que vous êtes leur député, en fait. Éric, tout à l'heure, a parlé de Coqueluche. Je trouve ça pas juste. Vous êtes l'élu des Gilets jaunes. Vous êtes l'élu de leur cœur. Pas de leur suffrage, mais c'est déjà ça. Et donc, du coup, discuter avec vous sur le rond-point de Sud Radio, ben, c'est aussi une façon de parler avec eux. Ça me fait plaisir.
Alors, à vous, Étienne Chouard. Donc, ce débat, vous le vouliez, hein, je l'ai dit en introduction. Il faut le souligner. Ils sont peu nombreux, ceux qui critiquent ce que vous dites, à accepter de débattre avec vous. J'imagine donc que vous êtes heureux ce soir. Alors, qu'est-ce que vous en attendez? Puis vous pouvez répondre, bien sûr, à Raphaël Entoven.
Moi, j'ai écouté Raphaël pendant des années à la radio.
Vous voulez dire que vous ne l'écoutez plus?
Ben, c'est qu'il s'est arrêté.
Il est à la télévision, sur Arte, dans Philosophie. Oui.
Et j'étais très content, vraiment, de le rencontrer ce soir, parce que, en parlant de philosophie, il parlait souvent de politique. Il m'apprenait des tas de choses, et de temps en temps, il me hérissait, et c'est très utile. J'étais comme frustré du débat qu'on peut pas avoir avec un animateur de radio, avec quelqu'un qui s'exprime à la radio. Et c'est une chance de pouvoir le faire aujourd'hui. Les Gilets jaunes sont la matérialisation, la mise en pratique d'une idée théorique que je défends depuis presque 15 ans. Selon laquelle, si on veut une puissance politique, si on veut pouvoir se battre contre les injustices, il nous faut une puissance politique. Que les représentants dont nous sommes affligés depuis 200 ans n'ont jamais été capables de faire advenir cette justice. Et que c'est pas à ces représentants d'instituer les règles de la représentation. C'est à nous, les représenter, d'écrire les règles du pouvoir, d'écrire les règles de la représentation. Alors, ils y sont pas venus spontanément, ça s'est pas passé tout de suite, mais ça s'est passé très rapidement. En fait, je trouve que les Gilets jaunes sont exemplaires.
Alors, justement, on va y venir, puisque je voulais que ce soit plutôt un propos introductif, mais vous avez choisi déjà de rentrer dans le vif du sujet, donc allons-y. Premier thème de ce débat, un thème volontairement un peu provocateur. Les Gilets jaunes approfondissent-ils ou déconstruisent-ils la démocratie? Parole donc à vous, Étienne Chouard, puisque vous dites, et vous le disiez déjà, les Gilets jaunes nous montrent le chemin, je vous cite, exemplaire, vous le disiez, ils sortent de chez eux, ils refont société, ils repensent les règles de la représentation. Les Gilets jaunes savent qu'ils doivent apprendre à instituer eux-mêmes leur puissance. Alors, en quoi sont-ils exemplaires, ces Gilets jaunes? Et quel chemin nous montrent-ils, selon vous?
Avant qu'il y ait les Gilets jaunes, on se désespérait, enfin moi je me désespérais comme bien d'autres militants, que personne ne sorte de chez soi, alors que nos représentants, entre guillemets, sont en train de, après avoir déconstruit le droit du travail, inversé la hiérarchie des normes, après avoir dévasté les services publics, privatisé les uns après les autres, après ils sont en train de détruire la sécurité sociale, ils viennent récemment de désindexer les retraites, ce qui veut dire d'appauvrir de façon chafouine, hypocrite, chaque année, cette vieille dame que j'ai vue sur un rond-point qui gagne 900 euros par mois de retraite. Comment est-ce qu'on vit avec 900 euros? C'était indexé, au moins indexé sur l'inflation, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une hausse des prix de 5%, sa retraite est réévaluée de 5%, ce qui fait qu'elle ne perd rien. Quand on décide de désindexer les retraites, ce qui est imposé au gouvernement par l'Union européenne, mais c'est pas une raison, c'est criminel, enfin c'est désespérant, c'est totalement antisocial.
C'est criminel, vous le dites.
Mais oui, c'est criminel. Enfin, ça veut dire que c'est très grave, quoi. Criminel, ça veut pas dire que c'est assassin, ça veut dire que c'est très grave. Qu'est-ce qu'on fait au corps social quand on appauvrit les plus pauvres, qui sont déjà très pauvres, et quand en plus on le fait de façon aussi hypocrite et lâche, que c'est l'inflation qui, sans le dire, va progressivement éroder leur pouvoir d'achat. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que devant ces trahisons répétées de l'intérêt général, les gens restent chez eux, ne bougeaient pas, ne sortaient pas, étaient comme inertes, quoi. Et donc, ça avait quelque chose de désespérant. Or, ce que font les Gilets jaunes, c'est donner enfin de l'espoir avec des gens qui se bougent, quoi, qui sortent de chez eux, qui protestent, qui tempêtent, et qui donnent l'exemple d'une certaine façon, enfin, qui font ce que nous devrions tous faire. Si on veut protéger la sécurité sociale, il faut qu'on empêche nos élus de déconstruire. Parce que quand ils décident de baisser les cotisations, et j'ai entendu Bruno Le Maire dire qu'il va les supprimer, comme si c'était un objectif. Mais ça aussi, c'est criminel de détruire. Parce que je sais que je suis excessif quand je dis criminel.
Déjà sur ce mot, criminel, Raphaël Antoven, vous voulez réagir ?
Faut pas le regarder au microscope, ce mot-là. Je veux dire gravissime, quoi. Mais quand on diminue les cotisations sociales, on affame l'hôpital. L'hôpital ne vit que par les cotisations sociales. Donc quand on détruit les cotisations sociales, on va vers le modèle américain, qui est un modèle dans lequel il n'y a que les riches qui sont soignés.
Moi, je comprends tout ce que vous dites, j'en partage une partie. Je trouve que l'outrance des termes que vous employez dessert le propos que vous portez.
C'est vrai.
Je trouve criminel et même gravissime, en un sens excessif.
Détruire la sécurité sociale.
Détruire, si c'était l'ambition affichée, naturellement. Et vous allez me dire, ce n'est pas l'ambition affichée, c'est l'ambition sournoise, ce qui permet de dire... Ça, à ce compte-là, on peut prêter n'importe quelle ambition à qui que ce soit. Les gens affichent le contraire de l'ambition que vous leur attribuez, et vous dites, mais c'est normal, il la cache. Donc, à ce compte-là, si vous voulez, on ne peut pas se défendre.
Mais Raphaël, quand on diminue les cotisations sociales, c'est la seule source de financement de la Sécu.
Étienne, moi, je veux bien qu'on parle des cotisations. Je suis assez inquiet, si vous voulez, comme vous, par la réforme de la Sécu, la façon dont les choses se font. Et pour être confronté quotidiennement au milieu hospitalier en ce moment, je vous avoue qu'effectivement, j'en vois les effets. Donc, il ne s'agit pas de questionner la légitimité de votre indignation. Il s'agit juste de s'interroger sur le lexique qui va avec. Et au-delà de vous, puisqu'on parle des Gilets jaunes, de s'interroger aussi sur le lexique des Gilets jaunes. Vous en parlez comme d'un mouvement exemplaire. Je ne peux pas tenir pour exemplaire, ni souscrire à ce mot, quand j'entends ce mouvement, quand j'entends « le peuple aura ta peau », quand j'entends « Macron, fils de pute », ou « souviens-toi de Louis XVI », ou « PD », ou « la seule retraitée que tu veux », etc., c'est Brigitte. Macron... Pardon de le citer, c'est une citation. On va baiser ta vieille, pas les Bretons. On va te mettre le nez dans ta merde, etc. On veut voir Brigitte à poil. Enfin, parler d'exemplarité à propos d'un mouvement dont les outrances sont celles-là, c'est-à-dire les insultes homophobes, pornographiques, scatologiques, l'attaque à hominem, etc.
Vous pensez que c'est tout le mouvement ?
Pas du tout. Pas du tout. Voilà, je ne dis pas ça. Je dis juste que le mouvement, cette parcelle-là du mouvement, cet élément-là du mouvement, les prive de l'expression d'exemplarité. Et au-delà de ça, quand l'invective est le salaire de l'objection, c'est-à-dire quand quelqu'un vous dit à un gilet jaune qu'il n'est pas d'accord, ces scènes auxquelles on a assisté où on dit on n'est pas d'accord et que les gens vous demandent votre salaire avant de savoir si vous avez le droit de parler, le débat est impossible. Vous dites ils font tout ce que les citoyens devraient faire.
Et je donne une liste.
Les citoyens ne devraient pas faire ça. Je ne crois pas. Pas de cette façon-là. Et un point très précis. Il y a un point qui me semble essentiel ici, c'est d'observer quelque chose d'étonnant. Les Gilets jaunes, depuis le début du mouvement, depuis 9 semaines, ont obtenu des tas de trucs. Le gel des frais bancaires, la hausse du SMIC, la suppression de la hausse de la CSG, je les ai notés, défiscalisation des heures sup, la suppression des taxes sur les carburants, le gel des tarifs du gaz, enfin, plein de trucs. Et pourtant... Chaque conquête était l'occasion d'une colère renouvelée. Ça veut dire que le mécontentement n'était pas soluble dans le fait d'exaucer les doléances. À aucun moment. Au contraire, il me semblait davantage que chaque conquête était plutôt l'occasion de dire « Regardez, le pouvoir est fragile ». On est face à une détestation de principe du pouvoir, c'est-à-dire à un rejet. Et ce rejet permet de coaliser des opinions disparates. Mais il est dispensé de donner un contour à son projet. De sorte qu'on a un rejet, on n'a pas un projet, et on a des gens qui disent « on s'est levé, on est en insurrection parce qu'il y a eu telle et telle mesure », et quand ils obtiennent satisfaction, l'insurrection augmente. Il y a quelque chose là qui n'est pas rationnel, et qui est intéressant à ce titre.
Étienne. Rejet, pas projet, je suis d'accord sur le départ, et sur une partie des Gilets jaunes, encore aujourd'hui. Mais on ne peut pas dire que tout le mouvement...
J'ai bien compris ça.
Je parle de
brebis galeuses, il y en a.
Et probablement,
c'est important de le dire.
Et probablement, est-ce que je déconne de mon côté, en globalisant... la vie positive que je donne sur les gilets jaunes, je sais bien que c'est pas parfait et qu'il y a des expressions horribles qui apparaissent dans...
Est-ce que je peux vous poser une toute petite question ? Est-ce que vous globalisez pas dans la vie négative que vous donnez du gouvernement ?
Probablement, oui, probablement, parce qu'il y a sûrement des aspects de
parce
la politique gouvernementale.
Parce qu'à vos yeux, il y a des bons éléments là-dedans, des gens sincèrement démocrates et républicains qui essaient d'arranger les choses.
À démocrates, je ne crois pas, parce qu'ils ne peuvent pas nous tenir à l'écart aussi rigoureusement. Eh bien oui, ils nous dominent complètement, les élus-là. Mais républicains, oui, peut-être. Mais si vous voulez, quand vous êtes dans la position d'un incapable politique, comme le sont les électeurs, nous ne pouvons décider de rien. Nous sommes dans une prétendue constitution qui ne nous laisse aucune institution pour décider de notre destin. Nous sommes réduits à élire, c'est-à-dire mettre un bulletin dans une urne qui porte le nom de quelqu'un qui va tout voter à notre place. Quand on n'est pas content de ce que font les élus en notre nom, nous n'avons même plus la rue, puisque dans la rue, on nous tire dessus. Je n'exagère pas, on nous tire dessus. On dit que c'est pas à balle réelle, mais une balle en caoutchouc, là, ça défonce le crâne, ça fait des fractures jusqu'à l'arrière, ça éborgne, enfin, c'est quand même... Enfin, il me semble qu'une seule de ces blessures, je veux pas...
C'est
pas la peine de détailler là-dessus, mais
on n'est pas à Soweto, Étienne. Il n'y a pas de meurtre policier, c'est pas Malik Houssekin, les morts des Gilets jaunes.
En même temps, Raphaël Antoine, si je vous cite, pardon de vous interrompre, tout à l'heure, vous releviez le propos plutôt outrancier à vos yeux, employé donc par Étienne Chouard. Moi, je vous cite dans un tweet, vous disiez, suite à une agression de journaliste, qu'il y avait des dictatures où le pouvoir enferme, torture et tue les journalistes, et il y a des démocraties comme la France, où c'est, je vous cite, le peuple autoproclamé qui s'en charge, ainsi revient la peste. Est-ce que vous ne pensez pas que vous participez aussi à cette outrance?
Non, je le soutiens. Parce qu'on a longtemps vécu sous le régime, je sais, Étienne Chouard, bon lecteur de Orwell et de 1984, on a longtemps vécu sous le crainte, et je pense que c'est la vôtre, d'un retour de Big Brother, d'une verticalité transcendante, d'un pouvoir absolu qui viendrait écraser les gens. C'est pas ma crainte. Moi, j'adore 1984, mais la tyrannie que Orwell décrit, j'en repère les symptômes à l'horizontale. C'est-à-dire que pour moi, le vrai danger, c'est pas Big Brother, c'est Little Brother. C'est pas la caméra de surveillance dans la rue, c'est le portable du voisin. De sorte que quand je vois des gens, quand je vois non pas le pouvoir de Maduro, par exemple, torturer des journalistes, mais quand je vois une foule s'en prendre à des journalistes ou leur casser la gueule, toute mesure gardée, bien sûr, je me dis que, en la circonstance, la détestation des filtres, la détestation des médias, où se repère, à mon avis, l'essence même de la tyrannie, la détestation des filtres est prise en charge, non plus par le pouvoir qui est légitime, qui est élu et qui ne ferait pas ça, mais, en l'occurrence, par un peuple en situation d'insurrection. Un peuple qui s'auto-désigne peuple, mais ça c'est encore une autre question. Oui. Je ne suis pas certain qu'on puisse soi-même se désigner comme peuple, et surtout, c'est un peuple dont la définition varie selon la personne qui le désigne, mais ça on en parle.
Donc pour répondre à la question, selon vous, les Gilets jaunes, ils participent à déconstruire ou à renforcer la démocratie?
Je pense qu'ils vivent comme un approfondissement de la démocratie, des revendications qui, à mon avis, auraient pour effet de l'abîmer durablement. Je pense au référendum d'initiative citoyenne.
Vous pensez que le référendum abîmerait la démocratie?
Je suis très sceptique sur les vertus du référendum. Et vraiment, si vous pouviez me convaincre, j'aurais pas perdu ma journée.
Alors, parlons-en justement. Étienne Chouard, je le disais en introduction, pour les auditeurs donc, qui viennent de nous rejoindre sur Sud Radio, donc nous sommes en direct jusqu'à 20h. Je le rappelle, vous pouvez aussi nous voir en live sur Facebook et YouTube pour un débat très attendu. Parlons donc de ce RIC. Vous êtes l'un des pères du RIC. Étienne Chouard, le référendum d'initiative citoyenne, enfin l'un des premiers à en avoir le plus parlé. Est-ce que vous pouvez nous rappeler d'abord pour les auditeurs donc précisément ce qu'est le RIC et pourquoi, selon vous, cela serait le remède politique à tous nos maux?
Écoutez,
C'est louche, hein. Pardon. Mais...
Rien que quoi?
Un remède unique à tous nos maux, mais bon, allez-y.
Oui, non, mais moi je ne dis pas que c'est un remède unique à tous nos maux. Quand on parle de référendum, on parle de voter. Donc on ne parle plus d'élire, on parle enfin de décider. Quand on parle d'initiative citoyenne, on parle de choisir les sujets que nous considérons comme importants. On laisse au peuple la possibilité de choisir les sujets qu'il trouve graves. Donc un référendum d'initiative citoyenne, c'est une procédure qui va permettre au démos, enfin, d'exercer le kratos. Alors, dans un système de domination parlementaire comme le nôtre,
c'est la constitution,
un texte que nous devrions avoir avec nous, c'est notre prison politique, 4 euros chez Dalloz.
Votre prison politique.
Mais oui, c'est là-dedans que je suis tenu à l'écart.
Celle qui a été votée par référendum.
Oui, mais par référendum. Donc ça montre bien qu'une constitution une constitution ne se vote pas par référendum. Ça ne suffit pas.
Il y a un problème. Si la légitimité pour vous, Étienne, c'est le vote, si le vote et non pas l'élection, hein, la nuance est très subtile, elle est très importante. Mais si la légitimité vient du vote, si c'est le vote qui confère sa légitimité à quelque chose, comment pouvez-vous à la fois affirmer cela et contester la légitimité de la Constitution et la présenter comme une prison alors qu'elle a été votée ?
Eh bien, je vais vous dire, c'est que ce qui compte dans une Constitution, ce n'est pas qui la vote, c'est qui l'écrit. Et que quand on nous conduit à voter cette Constitution, on se donne le moyen de nous faire accepter l'inacceptable.
Mais est-ce qu'en acceptant de la voter, on ne valide pas le fait que d'autres l'écrivent à notre place ?
Mais oui, mais manifestement, ça ne suffit pas. Manifestement, ça ne fonctionne pas, Raphaël. Les constitutions du monde sont, et il n'y a pas qu'en France, donc ce sont des prisons dans lesquelles les humains sont réduits à l'état dégradant d'électeurs qui ne peuvent qu'élire, c'est-à-dire désigner un maître qui va tout voter à leur place. Et je pense que c'est le fait que toutes ces constitutions soient votées par référendum montre que ce vote par référendum ne suffit pas à faire la qualité d'une constitution, que ceux qui l'ont écrit, qui étaient des professionnels de la politique comme partout dans le monde, ont un conflit d'intérêts, c'est-à-dire qu'ils ont un intérêt personnel contraire à l'intérêt général, parce qu'ils ont un intérêt à écrire leur puissance, et c'est ce qui se passe partout dans le monde, et l'impuissance populaire. Je pense que si on retrouve dans toutes les constitutions du monde une impuissance populaire, c'est parce que les peuples, les citoyens, ceux qui ne veulent pas exercer le pouvoir, démissionnent du processus constituant. Alors, je me trompe peut-être, hein, mais il me semble que ça paraît une cause plausible. Le fait que ce soit une prison n'est pas une fatalité du tout. Je fais des ateliers constituants pour me montrer à moi-même.
On rappelle pour les auditeurs ça consiste, les ateliers constituants.
Les ateliers constituants, un atelier, ça veut dire que c'est pratique, et constituant, ça veut dire qu'on s'occupe de constitution. Donc un atelier constituant, ça commence tout seul quand on réfléchit à la constitution et qu'on se met à écrire. C'est-à-dire qu'on la lit d'abord pour essayer de la comprendre. Quand on lit la constitution de 58 et qu'on se cherche, on cherche où est-ce que je suis, où est-ce que mon pouvoir est prévu, et je ne me trouve nulle part. C'est-à-dire que je suis dans ce texte comme dans toutes les autres. Je suis tenu à l'écart. Premier exercice de lecture. Et ensuite, quand j'essaye d'écrire ce qui serait une meilleure constitution, c'est-à-dire une constitution qui respecte plus le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est-à-dire mon droit à participer à la fabrication de la décision publique, et bien quand je commence à écrire, le fait d'écrire la souveraineté nationale, article 3, hein, la souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce, ça c'est l'article 3 actuel, la souveraineté appartient au peuple, c'est super ça, qui l'exerce, génial, par ses représentants. Alors si on passe trop vite, on ne se rend pas compte de l'arnaque. C'est une arnaque, ça. Parce que s'il l'exerce par ses représentants, Raphaël, c'est bien qu'il ne l'exerce pas.
Raphaël Antoven.
C'est une super question. Parce que, en somme, la question que vous posez, c'est est-on dépossédé par la délégation ?
Oui,
Est-ce qu'on est dépossédé du pouvoir quand on s'en remet à un autre ?
Absolument. Voilà.
Est-ce que, par exemple, si, sur des questions constitutionnelles, n'ayant pas moi-même les compétences qui sont les miennes et partageant temporairement vos convictions, je m'en remets à vous pour défendre ce que je crois, est-ce que je me dépossède de ma liberté en vous confiant le soin de plaider la cause à laquelle j'adhère, mais que je n'arriverai pas à défendre avec la même force que vous. Est-ce que c'est de la dépossession, ça ? Est-ce que quand je m'en remets à mon député, quand je lui demande d'être le légat aussi du désir qu'il a porté au pouvoir, et tout en admettant qu'il doit être le député de tous, malgré tout, est-ce que je me dépossède de ma liberté ? Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit une dépossession de liberté. Pour une raison simple, c'est qu'il me semble que la liberté, en fait, est à définir de deux manières. Il y a la liberté publique, celle qui s'arrête là où commence celle de l'autre. Ma liberté s'arrête là où commence la vôtre.
Oui,
on appelle ça la civilité, c'est magnifique.
Bien sûr.
Mais il y a une liberté intime, intransitive, dit Foucault. Une liberté propre, profonde, qui n'est pas entamée, qui est la liberté de l'individu, en somme, et qui n'est en rien entamée par les procédures politiques et même les procédures tyranniques. Mais sur le RIC, parce que c'est très important cette histoire. Je comprends parfaitement en quel sens on peut y voir un approfondissement de la démocratie. Mais les inconvénients du RIC sont, à mon avis, innombrables, et il y en a un qui est terrible.
Vous pouvez les détailler ?
Oui. Les vertus pour accéder au pouvoir ne sont pas les vertus pour exercer le pouvoir. C'est un vieux paradoxe politique.
Oui.
Pour conquérir le pouvoir, pour le dire très vite, faut être un filou, pour exercer le pouvoir, faut être un grand homme. Donc c'est rare, évidemment, quand les filous deviennent des grands hommes une fois qu'ils... À part des circonstances exceptionnelles, c'est assez rare qu'un non-filou, comme le général de Gaulle, accède aux affaires et soit pleinement lui-même dans l'exercice de ses fonctions. Le RIC, le RIC... Pourquoi faut-il être un filou pour accéder au pouvoir ? Parce que dans un régime électoral, il faut plaire aux gens.
Oui.
Le RIC, c'est-à-dire le suffrage permanent. La soumission du gouvernant à un suffrage permanent met l'individu élu en situation de rester le courtisan de ceux qui l'ont élu, c'est-à-dire de ne jamais leur déplaire, de tenter de ne jamais leur déplaire. Un gouvernant qui ne veut jamais me déplaire, moi, quelqu'un qui ne veut pas me déplaire, c'est quelqu'un qui me méprise. Quelqu'un qui me flatte, c'est quelqu'un qui me méprise.
Mais
quelqu'un qui essaie de me faire la cour, c'est quelqu'un qui essaie de m'avoir.
Mais comment ?
Mais je veux aller au bout de ma pensée. Dans cette affaire-là, on produit des gouvernants qui sont les courtisans de leurs électeurs. Et pour quelle raison ? Parce que il y a une confusion ici. En considérant que le peuple, si vous voulez, en démocratie, le peuple est le maître. C'est lui qui décide.
Alors je l'écris.
Mais
je
oui,
l'écris.
En démocratie, le peuple est le maître. C'est lui qui décide.
Alors,
mais le peuple, Étienne,
n'est pas le roi.
N'est pas le roi.
Qu'est-ce que ça veut dire,
eh
ça,
bien,
le peuple
ça veut
n'est
dire
pas le roi.
Quand la décision intervient lors des élections, elle s'applique à travers les turpitudes du pouvoir, popularité, impopularité. Aucun président de la République, à part le général de Gaulle, n'a été plus longtemps populaire qu'impopulaire. Donc tous auraient été démis. En démocratie, le peuple est le maître, il n'est pas le roi. Il décide, mais ça n'est pas son bon plaisir qui commande. Quand c'est son bon plaisir qui gouverne, c'est-à-dire quand du jour au lendemain, il décide qu'un tel ne lui convient plus, ou prend des mesures impopulaires, ou parce qu'il refuse d'en voir les conséquences ou quoi que ce soit, et qu'il considère que par conséquent, il manque à sa tâche et qu'il le révoque, c'est son bon plaisir qui intervient, c'est un comportement royal. Et le résultat de ça, c'est que comme tous les rois, on produit des courtisans. Et quand un gouvernant devient le courtisan de ses électeurs, c'est la fin de
et
la politique,
choix.
Étienne. C'est la fin de la politique. Et c'est tout le problème d'une démocratie non représentative.
C'est le contraire, je ne comprends pas. Quand vous dites le peuple est le maître, c'est lui qui décide.
Oui.
Et il faut bien que ça devienne quelque chose de concret, de matériel, de réel. Quand vous dites juste après qu'il y a des élections qui sont une dépossession. Vous êtes en train de
non,
rendre
je dis pas ça, moi.
Ben oui, mais pourtant c'est bien le cas. Quand j'élis quelqu'un, Raphaël, je ne vais plus voter. Je suis dépossédé.
Élire, c'est abdiquer
ma souveraineté.
J'entends votre argument, c'est l'argument de Sartre. Ça a été l'argument d'Alain Badiou aussi. C'est l'argument de Sartre, élection piège à con en 73. Sartre disait, un homme qui se cache pour voter est un fourbe en puissance. C'est quelqu'un qui se satisfait d'exprimer discrètement son opinion une fois tous les 5 ans et qui ensuite, avec bonne conscience, s'éloigne du truc. C'est pour ça qu'Alain Badiou disait que l'élection dépolitisait les peuples. Mais c'est c'est une analyse qui est vieille comme la démocratie.
C'est vieux que c'est faux.
Non, c'est vrai. Mais il arrive que ça soit faux même quand c'est vieux.
Bon,
L'électeur qui se cache pour voter.
Mais pourquoi qu'il se cache ?
Qui se met dans l'isoloir. L'électeur qui va dans l'isoloir pour voter ne se planque pas.
Il vote pas, il élit.
Oui, il vote quand même.
Mais non.
Ah, il élit, mais il vote.
C'est toute la nuance. Je distingue les deux mots, parce que sinon on n'arrive pas à raisonner deux mots qui sont si différents. Élire, c'est renoncer à voter.
Ça n'est pas les confondre que de dire qu'une élection, Étienne, est la conclusion d'un vote. Pardon de dire ça, c'est une évidence de dire ça. Je dis juste que les gens votent. Vous pouvez considérer que l'élection est un dévoiement du vote et qu'il faudrait voter sur des choses directement, sans en passer par la médiation de nos représentants. Mais dire que les gens sont élus à la suite d'un vote, ça n'est pas dire une contre-vérité. Moi,
c'est pas une
contre-vérité,
mais ça nous empêche de penser.
Moi, ce que je dis ici, c'est qu'un électeur un électeur qui entre dans l'isoloir et qui met son bulletin dans l'urne n'abdique pas sa souveraineté. Au contraire, d'abord, il l'exprime. Ensuite, il se débarrasse des regards, il se dépouille de ce qu'il a d'individuel pour faire un choix qu'il se représente lui-même comme la brique d'un édifice plus large que lui. Donc c'est au contraire
encore
le moment...
Encore faut-il qu'il vote,
mais Raphaël...
Encore faut-il qu'il vote, absolument, ça c'est important. Mais pour ma part, j'ajoute à ça qu'il y a des tas d'endroits où on vote tout le temps.
Alors,
Suisse, aux États-Unis, etc., etc., ce qui ne me gêne pas du tout.
Mais
on vote à votre façon.
Rendre obligatoire le vote, peut-être.
Nous n'avons jamais été consultés pour savoir si nous voulions élire ou pas.
Vous voulez qu'on vote pour savoir si on veut élire ou pas ?
Non, mais ça pourrait être par référendum que nous décidions, mais en fait, c'est...
Mais vous voulez un référendum sur la possibilité de voter ? Vous voulez voter sur la possibilité de voter ? C'est comme un sceptique qui serait sceptique sur son scepticisme.
Mais non, pourquoi est-ce que nous ne voterions pas sur la possibilité de voter ? Voter, c'est opiner,
c'est décider...
Mais non, c'est pas absurde.
Ah si, puisque c'est acquis, puisqu'il y a la possibilité de voter.
Précisément sur l'impossibilité de penser qui vient du fait de confondre élire et voter. Alors, s'il vous plaît, convenons ensemble. Je veux pas vous convaincre définitivement, mais pour la possibilité de la conversation, de distinguer les deux mots élire et voter de façon à ce que nous puissions distinguer les deux concepts. Je veux bien entendre qu'il y a une acception du mot voter qui serait valable dans les deux cas, mais comme ça entraîne une confusion, nous n'arrivons pas à savoir de quoi nous parlons. Est-ce que vous êtes d'accord sur cette convention qui consisterait à dire que quand j'élis C'est une forme de vote qui consiste à désigner quelqu'un qui va tout voter à ma place, alors que quand je vote, c'est une convention entre nous.
Je vote juste
pour une heure. Quand je vote, voilà, je décide.
C'est la différence entre un référendum et une élection.
Exactement. Ah. Voilà. Donc,
mais je suis pas hostile ni à l'un ni à l'autre.
Hein, oui, tout à fait.
Mais je suis pas hostile à la seconde non plus.
Sur le plan du vocabulaire, tombons d'accord sur cette définition de façon à ce qu'ensuite on puisse plus dire que quand on élit, on vote.
Bah si, parce que c'est aussi ça. Un référendum, c'est pardon. D'abord, une élection, c'est aussi un référendum, et un référendum, c'est aussi une élection.
Raphaël.
En 2005, on parlait du raffarindum. C'est pas un hasard, bien sûr. Un référendum est aussi une élection est aussi un référendum, et c'est d'ailleurs une des grandes.
On mélange tout, mais on n'arrive pas à penser. On mélange pas tout.
Les élections européennes, ce sera un référendum.
C'est un des problèmes. Vous m'accorderez que c'est un des problèmes de la structure référendaire, et c'est le général de Gaulle qui en est l'origine. En 1969, il pose une fausse question sur la régionalisation et la réforme du Sénat. Bien. En réalité, c'était voulez-vous encore de moi ou non.
Bon.
Tous les référendums ont été les héritiers de cette confusion liminaire.
Non.
En 92, Mitterrand, la popularité de Mitterrand renaissante à ce moment-là lui a permis de passer. Mais... En 2002, Chirac, enfin 2005, Chirac et Raffarin dans les choux ont fait qu'on a voté contre eux et que donc le référendum n'est pas passé. Donc il faut
les référendums
et les élections, pardon, ils sont cousins.
Non, mais c'est parce que vous parlez que des référendums de cette anti-constitution qui ne sont que des référendums à l'initiative du prince. Mais vous pouvez pas réduire tous les référendums à ce type de référendum qui précisément est le type le plus dangereux de référendum qu'il faudrait. Le type de référendum que les peuples devraient craindre, c'est celui que les princes peuvent utiliser comme un outil césariste. C'est pour ça qu'on parle.
Vous êtes contre le référendum?
Le référendum à l'initiative du prince. Et je le confonds pas du tout avec le référendum d'initiative populaire.
Mais par exemple, quand sur la Constitution européenne, le prince décide qu'on va soumettre la Constitution au peuple, vous êtes contre?
Je ne suis pas contre le choix du peuple en 2005, c'est encore une autre question.
Est-ce que c'est un déni de démocratie, le traité de Lisbonne, par rapport à 2005? Mais c'est un autre sujet, je veux bien qu'on en parle.
Je suis contre parce que je suis pour le référendum d'initiative citoyenne. C'est-à-dire que c'est pas au président de choisir les questions importantes, parce qu'il va nous priver des questions importantes. La pratique du référendum, depuis 58, et bien même avant, montre que les questions importantes ne nous sont pas posées. Raphaël, en Suisse, ils se posent des questions à eux-mêmes tout le temps, et c'est pas une gabegie, c'est pas l'enfer, aux États-Unis aussi, les juges sont élus, il se passe des choses, bien sûr, donc c'est pas dramatique, je dis pas que c'est dramatique, je dis que le systématiser
et en faire l'unique mode de gouvernance, c'est suicidaire.
Mais il n'est pas question d'en faire l'unique mode de gouvernance.
Vous pensez que c'est suicidaire?
Si on fonctionnait que comme ça, ça marcherait pas du tout, mais c'est pas ça dont il est question. Le référendum d'initiative populaire, c'est dans un régime représentatif. C'est pas en démocratie directe. En démocratie directe, nous voterions nos lois. On n'aurait pas besoin du référendum d'initiative populaire. Non, c'est dans un gouvernement représentatif dans lequel nous avons besoin de représentants, dans lequel nous décidons que ce sont les élus qui votent les lois à notre place, que nous mettons une capsule de démocratie pour garder la main sur les sujets que nous considérons comme importants. Et où exceptionnellement, nous décidons qu'une centaine, 200 000, 300 000, c'est à nous de discuter justement sur le seuil. Un grand nombre de personnes peuvent déclencher une question posée à l'ensemble du peuple. Et figurez-vous que dans les ateliers constituants, on s'interdit de décider trop vite après l'initiative, parce qu'on sait bien qu'il est essentiel que l'opinion soit convenablement éclairée. Mais qu'il y a un long délai et toute une procédure à laquelle nous réfléchissons, de mise en scène des conflits, avec
donc
une chaîne.
Beaucoup de règles encore à mettre en place.
Que nous mettons en place déjà, avec une mise en scène des conflits sur le site du référendum, sur la chaîne du référendum, des outils d'éclairage de l'opinion, de façon à ce que les humains qui vont être consultés ne soient pas vierges sur la question et n'aient que l'avis des médias sur la question.
Je peux vous faire une objection.
La mise en scène des conflits, c'est-à-dire nous faisons attention à ce que, avant d'opiner, avant de voter sur le référendum, nous ayons tous vu les avis des experts, des différents experts pour, les avis des différents experts, quel que soit le sujet, contre, les controverses, comme la nôtre, les controverses publiques multiples, pas une, plusieurs jours. Et si pendant 6 mois vous avez, alors c'est sûr, peut-être sur la peine de mort,
regardez,
ça peut être
Etienne,
sur les grands sujets difficiles, sur le.
Mais moi ça me gêne pas les différents sujets, mais regardez, par exemple, il y a plein de trucs, mais la simple discussion qu'on a maintenant,
oui,
sur un média.
Oui.
Donc un intermédiaire, un média honni par certains gilets jaunes, pas tous.
Et néanmoins, c'est les médias des riches qui sont honnis, c'est pas...
La discussion que nous avons maintenant est un exercice démocratique.
Oui.
C'est un exercice démocratique, c'est la libre confrontation courtoise d'opinions, oui. De gens qui sont d'accord pour pas être d'accord. C'est un exercice démocratique
qui est incarné... Et qui aboutira peut-être même à un vote, puisque les gens pourront s'exprimer,
mais ça, c'est pas du vote, ça pour le coup, ça c'est encore autre chose. Mais bon, le like, c'est pas du vote, mais bon...
Je suis d'accord avec ça.
Bon, mais ça c'est bien. Génial.
Et pourtant, les gilets jaunes sont nés justement par les réseaux sociaux.
C'est moi qui essaie de dire un truc là maintenant après.
Finir sa phrase.
Non, c'est pas juste. Non, je veux juste dire très simplement, la discussion que nous sommes en train d'avoir sur un filtre médiatique comme ça est un exercice démocratique. Ça veut dire que le média et des gens qui viennent représenter un certain nombre de tendances ou d'opinions ou de façons de penser et qui s'affrontent loyalement ne sont pas antidémocrates. La délégation d'opinion, puisque c'est ça qui se passe là, la délégation d'opinion n'est pas un exercice antidémocratique.
Mais pas du tout. J'ai jamais dit ça. Je ne suis pas contre les représentants du tout.
Parfait.
Nous avons besoin de représentants. Ce que montrent les gilets jaunes, c'est que justement, ce qui est très important, c'est que ce soit nous qui fixons
bien
les règles
micro.
De la
représentation. C'est que ce ne soit pas les représentants qui passent
fixent
les lois.
Mais oui, non, pas les lois, les règles de la représentation. La Constitution, il ne faut pas que ce soit les représentants qui fixent les règles de la représentation.
Mais il me semble que...
Ça, je suis sûr que vous allez arriver à tomber d'accord avec
moi. Au système que vous proposez, je vois deux objections. Il y en a une, vous avez déjà répondu, mais c'est intéressant de reprendre la discussion. La première, c'est l'objection de Rousseau. Rousseau disait que un peuple de Dieu se gouvernerait démocratiquement, mais un gouvernement si parfait ne convient pas à des hommes. C'est dans le contrat social.
Oui, mais c'est une affirmation qui n'est pas prouvée.
Un peuple de Dieu se gouvernerait démocratiquement. Il a dit ça. Un gouvernement si parfait ne convient pas à des hommes. Pourquoi le dit-il?
Oui.
Parce qu'il est impossible d'obtenir d'un individu qu'il se voue continuellement à la chose publique. Le retour de la mesquinerie, le retour de nos égoïsmes individuels fait qu'on ne peut pas se vouer continuellement à la chose publique. Si le peuple est l'unique législateur et qu'il est saisi de cette fatigue démocratique qui veut que on s'occupe aussi de sa vie, tout le temps obligé de s'occuper des affaires publiques, voulez, alors nous avons un législateur défaillant. Et la deuxième objection, c'est cette confusion où le complotisme trouve sa source, mais pas, là c'est autre chose, entre l'égalité des droits et l'équivalence des compétences. Vous parlez d'égalité des esprits. À un moment, je vous ai entendu dire ça, c'est une très belle ambition. Reste que le fait que nous ayons des droits égaux ne fait pas de nous les dépositaires de compétences égales. Et contrairement à vous, j'ai tendance à penser que si l'élection est fondamentale, la politique demeure un métier. Ça demeure quelque chose... Mais oui, ça demeure un apprentissage. Il faut, pour faire de la politique, faire de l'histoire, faire du droit, faire de l'économie, faire de la philosophie, même à mon avis, ça me semble essentiel. Il faut travailler les constitutions, il faut mettre à l'épreuve ses convictions. Et en cela, la politique, oui,
alors
c'est aussi un métier.
Alors, là-dessus.
Raphaël, à mon avis, mais je peux me tromper, mais c'est la négation même de l'idée démocratique que d'en faire un métier. Précisément,
c'est
le...
dialogue, oui.
Mais oui, précisément, l'idée démocratique, en tout cas à Athènes, c'était précisément de dire que, certes, il y a des sujets sur lesquels nous avons besoin des compétences, et là on va élire, par exemple sur les finances publiques, par exemple sur l'art de la guerre. Quand nous avons besoin de compétences, nous allons élire parce que nous avons besoin de choisir. Mais, disaient les Athéniens, et je pense que nous devrions faire la même chose aujourd'hui, en matière de politique, il n'y a pas d'experts, nous sommes égaux politiquement. Nous sommes égaux politiquement pour opiner.
Mais sinon,
pourquoi acceptez-vous l'élection?
Mais je ne dis pas le contraire, je dis juste que nous n'avons pas les mêmes compétences.
Mais oui,
on a tout à fait besoin de compétences en politique, c'est la raison pour laquelle moi je suis hostile au tirage au sort. Bien sûr qu'on a besoin de compétences. Je veux un exemple ici.
Il reste 10 minutes.
Très rapidement.
Déjà ?
Très rapidement. La lettre d'Emmanuel Macron. La lettre d'Emmanuel Macron était intéressante de ce point de vue. Moi, je suis d'accord avec vous pour dire que la démocratie meurt si les citoyens ne s'en emparent pas.
On est d'accord.
Mais on est absolument d'accord sur la question.
Qu'est-ce que vous pensez de cette lettre ?
La question est de savoir comment il s'en empare. Quand Emmanuel Macron écrit sa lettre aux Français, je présume qu'elle n'a pas touché votre cœur.
Mais non, oui, pas du tout.
À vous entendre soupirer.
Mais oui.
Je vais défendre l'indéfendable pendant un instant. Quand il écrit cette lettre, il pose toute une série de questions. Des questions, des problèmes. C'est-à-dire qu'il dit comment on fait pour baisser la fiscalité tout en favorisant la transition énergétique. Je ne sais plus. Bref, toute une série de dilemmes qu'il présente aux citoyens qui sont exactement les problèmes qui se présentent à lui. Et il met les gens... en situation de penser en se mettant à la place de celui qui gouverne. Mais cette phrase-là, s'il vous plaît, Étienne, cette phrase-là est une intuition de Raymond Aron. Raymond Aron, un jour, a compris qu'il fallait toujours penser en se mettant à la place des gens qui gouvernent. Alors les gens y ont vu une défense de l'ordre établi. C'est pas une défense de l'ordre établi, c'est une défense du possible. Macron, en mettant les gens, les citoyens, les électeurs, en situation de se poser des problèmes qui se posent à lui, à mon avis, pour le coup, contribue effectivement à un vrai débat démocratique.
La réponse d'Étienne Chouard, le grand débat national.
Et vous n'avez pas l'impression qu'il oublie deux, trois détails?
Si, il oublie des points de l'établissement.
Il oublie de dire le nombre de milliards, de dizaines de milliards qu'il a abandonné en diminuant les impôts des riches. À Athènes, seuls les riches payaient les impôts.
Non, il dit, par
à Athènes, seuls les riches payent les impôts. Aujourd'hui, en gouvernement
démocratique, oui.
Je déparle en voulant parler vite, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a plus que 10 minutes. En gouvernement représentatif, les riches ne payent plus d'impôts. Enfin, c'est quand même incroyable. Ce gars-là a diminué de façon drastique les impôts des riches. Alors, il a ruiné l'État. Et maintenant, il vient nous faire la leçon en disant « Mettez-vous à ma place. J'ai de la peine à trouver des impôts des pauvres à augmenter. » Et ils ont tous fait ça. Chacun des présidents précédents a baissé les impôts des riches. Le déficit public, Raphaël, ne vient pas de l'augmentation des dépenses publiques. Les dépenses publiques, elles sont, depuis 30 ans, en pourcentage du PNB, en gros, grosso modo, elles sont les mêmes. Le déficit public, il vient de la diminution des recettes. Et c'est pas les impôts, c'est les impôts qui baissent, mais c'est pas les impôts de vous et moi, c'est les impôts des gens ultra riches qui ont déjà trop d'argent.
Vous
c'est incroyable qu'on leur baisse.
La dépense publique a pas augmenté depuis 30
ans. La dépense en proportion du PIB, elle est la même. Le déficit ne vient pas de l'augmentation des dépenses publiques. Attends, je vous promets, il faudrait qu'on ait les vérificateurs.
Les fact-checkers.
Oui, voilà, il faudrait qu'on ait ça. Et donc, vous avez entendu parler de la diminution de l'impôt des riches. Enfin, c'est incroyable. Ces
sur
gens
l'ISF,
sont
c'est intéressant cette histoire. Sur l'ISF, c'est
Emmanuel Macron qui a rappelé qu'il n'y avait pas déjà, moins de pauvres.
Ces gens sont déjà extraordinairement riches et on leur donne encore des paquets de pognon. Ces gens ne vont pas dépenser l'argent. Ces gens ne vont pas dépenser l'argent. Ces gens sont tellement riches. Je pense qu'il y a l'excès de pouvoir et l'excès de richesse rend fou. Et il y a une hubris que nous ne sommes plus capables de limiter. La société a besoin de se protéger contre cette démesure des riches.
Je suis d'accord avec vous, je parle pas de personne, je parle de comme la démocratie.
Mais oui, mais il y a des limites, il y avait plein de limites à l'hubris à Athènes.
C'était à Athènes qu'on avait prédit le dévoiement de la démocratie en plutocratie, je veux dire. Donc c'est que la richesse posait déjà des problèmes.
Oui.
Le gouvernement
mais
des riches,
la
dépossession par la richesse existe, bien sûr, et c'est un scandale, contre lequel il faut lutter. À mon avis, c'est une illusion de croire qu'on va l'abolir un jour. Mais en revanche, il serait scandaleux de ne pas s'en indigner, de ne pas lutter contre. En revanche,
et Macron, il en parle pas, il oublie de dire.
Ouais, sur l'ISF, c'est très intéressant cette histoire d'ISF. Quelle est la thèse de Macron? On adhère ou on n'adhère pas? Franchement, ça c'est autre chose. Mais quelle est la thèse qu'il défend? Pas une thèse de criminel, c'est de dire que l'ISF est un impôt punitif qui ne rapporte pas grand-chose. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas une solution, c'est une sanction. C'est une façon de punir des gens qui gagnent trop et donc d'apaiser ceux qui ont moins. Et en même temps, avec cet argent, on va pas faire grand-chose. Donc il considère que c'est de la démagogie. C'est la raison pour laquelle il refuse de l'appliquer. On peut adhérer, on peut pas adhérer. On peut ne pas adhérer, bien sûr. En revanche, y voir là quelque chose de concerté et de délibérément criminel me semble du coup manquer l'objet et compromettre la possibilité même d'en discuter. Parce que dans l'analyse qu'il propose de l'ISF, il y a une analyse du ressentiment en démocratie qui est intéressante aussi. Et ça, on s'en prive.
En gros, il reste 3 minutes si vous aviez un conseil à donner à Emmanuel Macron l'un et l'autre.
Raphaël, c'est pas moi qui ai parlé d'ISF, hein, parce que vraiment le gros trou,
c'est un bon sujet, l'ISF.
Mais pas tant que ça.
Parce
que
vous avez un piège pour un défenseur de Macron, donc vous devriez y aller.
Non, parce
il reste quelques minutes seulement.
Vous avez raison de souligner que l'ISF n'est pas nécessaire par son rendement. Il n'a pas de rendement. Mais par contre, quand on donne 20 milliards par an de CICE qui ne créent pas d'emploi et qu'on double cette charge...
On peut s'en indigner, mais ça a été voté, Étienne.
Oui, mais c'est scandaleux. Enfin, je veux dire, il oublie de le dire. C'est-à-dire qu'après avoir ruiné l'État, il vient nous donner l'impression, le spectacle de quelqu'un qui fait ce qu'il peut avec très peu d'argent. Mais enfin, on a tellement gaspillé à diminuer l'impôt des riches depuis 40 ans, ça fait 40 ans que ça dure, hein, que c'est quand même pas honnête, quoi, hein, de prétendre donner... Bien sûr qu'il faut se mettre à la place du gouvernant. Évidemment, je suis d'accord avec cette hypothèse-là. Mais...
Pour terminer, je suppose que vous voyez d'un mauvais œil une liste gilets jaunes depuis la candidature.
On s'en fout complètement. Je veux dire, ils font ce qu'ils veulent. On peut pas leur interdire de se présenter.
De toute façon, là.
Mais non. Non, mais qui suis-je pour leur dire ne pas se présenter? Oui, il y a une contradiction à se présenter. Alors, surtout que ça sert à rien. Le Parlement européen n'a pas de pouvoir. Les élus dans l'Union européenne n'ont pas de pouvoir. Et ceux qui ont du pouvoir sont totalement hors de contrôle. Hors de contrôle politique. Alors qu'ils exercent, un pouvoir législatif, un pouvoir monétaire, un pouvoir juridictionnel exorbitant, un pouvoir énorme.
Donc, pour terminer,
énorme,
comment, selon vous, ça va évoluer la situation?
Le fait de savoir qu'on va élire ou pas 2, 3, 4, 10 gilets jaunes dans ce Parlement de plus de 700 députés n'a aucun intérêt, je veux dire.
C'est... Non, mais ce qui est intéressant peut-être, c'est la façon dont les gilets jaunes ont réagi très rapidement. Ce qui est intéressant peut-être, c'est la façon dont d'autres gilets jaunes ont réagi à cette initiative. J'ai dit tout à l'heure que le mouvement des gilets jaunes était un rejet plus qu'un projet. C'est-à-dire que...
Mais il y a un projet constituant.
C'est le vôtre. C'est une révolte qui commence par dire non. Ce que je veux dire ici, c'est que c'est une révolte qui commence par dire non.
C'est souvent comme ça, les révoltes.
Non, justement. C'est tout le principe de l'homme révolté d'Albert Camus, c'est de dire, et je veux finir là-dessus, que l'homme révolté dit oui avant de dire non. Quand on se révolte, quand on s'insurge contre quelque chose, il faut que cette révolte, dit Camus, soit portée par un amour, pour une raison simple. C'est que si le refus est premier, la révolte peut à la fois coaliser des opinions disparates et dans le même temps se prive de donner un contour à un projet, de donner une mesure à un projet. Quand l'homme révolté dit oui, il est contraint à cet effort, il est contraint à donner une mesure à un projet, il est contraint à l'inscrire dans une durée et à jouer le jeu de la politique pour le faire advenir. Or, la façon qu'ont les gilets jaunes de refuser justement la représentation, c'est un peu comme les cathares, si vous voulez. Ils ne voulaient pas se reproduire, ils ont disparu. Ben là, il y a un problème avec ça. C'est-à-dire, le fait de refuser de se donner des représentants ou de refuser d'entrer dans ce jeu-là au motif qu'on y perderait son âme, débouchera à mon avis...
Voilà, ce sera donc le mot de la fin, Raphaël. On te donne un mot et à vous, Étienne Chouard, pour conclure. Une minute seulement.
Mais Raphaël, vous vous trompez quand vous pensez qu'ils en sont là. Ils étaient là, ils sont arrivés sur les ronds-points avec une détestation de la représentation parce qu'ils ont l'impression d'être trahis depuis des décennies. Et c'est un très bon point de départ pour un processus constituant. Une constitution, disait Constant, c'est un acte de défiance. Il s'agit pas de faire confiance dans c'est comme un contrat. Un contrat, ça définit les comportements que nous allons avoir quand les choses vont mal se passer. Il faut, ça peut pas être confiant, une constitution. Et donc, le fait d'être défiant les met en situation de penser eux-mêmes les termes de la représentation avant de désigner des représentants, mais ils savent bien qu'il va falloir désigner des représentants. C'est pas mal du tout, ça. Nous devrions tous faire ça.
C'est l'avantage de l'avenir, Étienne, ça. Pour le coup, c'est l'avantage de l'avenir.
Voilà, on ne sait pas. Oui, voilà, absolument.
Ce débat pourrait durer quelques heures de plus. En tout cas, on ne pourra pas vous réconcilier sur tout. Merci beaucoup.
On n'était pas fâchés.
Ouais. Vous vous souvenez, on avait dit...
Allez, 20 secondes, Étienne.
Je proposais que nous voyions 2 heures et je pense que
ça nous aurait pas suffi. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Étienne Chouard et Raphaël Antoven d'avoir accepté tous deux de participer à ce débat.
Merci à vous.
Vous pouvez évidemment le voir en replay sur les réseaux sociaux. La preuve aussi qu'on pouvait rester courtois. La suite de vos programmes dans un instant sur Sud Radio. Bonne soirée.